VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à l'écoute. Il est 17h30 en temps universel. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui à la une de l'actualité en ce lundi 27 novembre 2023. En Sierra Leone, chasse à l'homme après les affrontements ayant fait au moins 13 morts dans l'armée. Au Soudan, échange d'obus au-dessus du Nil entre l'armée et les paramilitaires à Khartoum au 7e mois de la guerre. Le bilan des inondations en Somalie s'élève à une centaine de morts. La trêve dans la bande de Gaza prolongée de 48 heures, affirment le Hamas et le Qatar. Dans la tranche magazine, gros plan sur un festival qui vient d'avoir lieu dans la ville congolaise de Goma avec pour objectif de mettre à l'honneur le talent féminin.
Selina, une jeune artiste déplacée par la guerre qui vit à Goma, se concentre depuis plusieurs mois sur une musique révolutionnaire.
Et voilà, reportage tout à l'heure. Et ne manquez pas non plus vos rendez-vous habituels, la minute de l'économie et la page sportive dans 10 minutes environ. En Sierra Leone, le gouvernement traque les responsables encore en fuite des affrontements qui ont fait au moins 13 morts et 8 blessés hier dans les rangs de l'armée et qui ont été orchestrés par d'autres militaires, d'après le porte-parole de l'armée. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Nous avons lancé une chasse à l'homme pour retrouver tous ceux qui sont impliqués dans l'attaque et parmi lesquels se trouvent des soldats en activité ou à la retraite, a déclaré le porte-parole de l'armée, le colonel Issa Bangoura. Les autorités n'ont pas fourni de précisions sur les instigateurs des événements, ni sur leurs motivations. Certains membres du personnel militaire ne sont pas loyaux envers le gouvernement et le président, malgré le serment qu'ils ont prêté, a ajouté le colonel Bangoura. Les Sierra Leonais ont commencé à reprendre leurs activités à Freetown, placées sous haute protection. La capitale Sierra Leonaise a connu hier plusieurs heures de confrontations armées entre les forces de sécurité et des inconnus qui ont tenté de forcer une armurerie. La prison centrale et d'autres établissements pénitentiaires ont été pris d'assaut et des dizaines de détenus se sont échappés. Le président Julius Mada Bio a assuré sur la télévision d'État que le calme est rétabli et que la plupart des responsables ont été arrêtés.
L'armée soudanaise et les paramilitaires ont échangé aujourd'hui des tirs d'artillerie et des roquettes depuis deux rives opposées du Nil, dans la capitale, au 7e mois d'une guerre sanglante. Davantage avec Rosine Moulezero.
L'armée, depuis Omdurman, la ville jumelle sur la rive ouest du Nil, et les forces de soutien rapide depuis Khartoum Nord sur la rive est, ont échangé des tirs d'artillerie et des roquettes selon des habitants qui affirment que les bombardements ont surtout touché des habitations civiles, faisant des dizaines de victimes. Lundi, les FSR ont attaqué la base de Wadi Seydna, une base aérienne stratégique située au nord de Khartoum, a affirmé leur porte-parole. À plus de 800 kilomètres au sud-ouest, dans la ville d'Al-Mouglad, au corps de front ouest, les troupes de l'armée se sont retirées d'une base après une attaque des paramilitaires dans cette région riche en pétrole. Dans le même état, à Babanoussa, des témoins ont fait état de bombardements aériens de l'armée sur des groupes de paramilitaires. L'armée a battu en retraite à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, tandis que les FSR prenaient le contrôle de bases militaires dans la vaste région du Darfour. Dans l'ouest. Le conflit, déclenché le 15 avril, a fait plus de 10 000 morts. Jusque-là, les deux camps ne se font pas de concessions, comme l'a encore démontré l'échec début novembre des négociations menées sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie Saoudite.
Également, dans l'actualité, près d'une centaine de personnes ont péri en Somalie lors d'inondations causées par des pluies diluviennes qui touchent depuis plusieurs semaines la Corne de l'Afrique. Les organisations humanitaires s'inquiètent pour les personnes vulnérables aux maladies dans cette zone. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, trois districts ont été inondés avec une augmentation des cas de diarrhée aqueuse et de choléra et la progression du paludisme. L'eau qui a inondé le district de Dolo, dans le sud-ouest de la Somalie, a commencé à refluer, mais elle laisse derrière elle des familles en détresse qui ont tout perdu et sont exposées aux maladies. Le gouvernement somalien a déclaré le 12 novembre l'état d'urgence après ce que l'ONU a qualifié d'inondation du siècle qui a coûté la vie à une centaine de personnes et privé 700 000 personnes de domicile. Au Kenya voisin, les inondations ont fait 76 morts selon la Croix-Rouge et ont également provoqué des déplacements massifs, la destruction de routes et de ponts et laissé de nombreux habitants sans abri, sans eau potable et sans nourriture selon Médecins sans frontières.
L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a contesté en bloc toutes les accusations d'enrichissement illicite lors de sa dernière prise de parole devant une cour criminelle anticorruption de Nouakchott. Avant un jugement attendu sous peu, toutes ces accusations sont erronées, injustes et s'inscrivent dans le complot ourdi contre moi, a déclaré l'ex-chef de l'État lors d'un monologue de plusieurs heures devant le tribunal qui le juge depuis le début de l'année. On m'accuse de corruption, où est donc mon corrupteur. Où sont les preuves de cette corruption? Encore dit Mohamed Ould Abdelaziz, qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019 avant sa disgrâce progressive sous son successeur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. En Afrique du Sud, le sida perd du terrain, ce pays qui compte le plus de cas de VIH au monde, a enregistré sa première baisse significative du nombre de personnes atteintes, d'après une étude publiée aujourd'hui. Selon le Human Sciences Research Council, un institut de recherche publique sud-africain qui a mené une enquête auprès de 76 000 personnes, le pourcentage de Sud-Africains porteurs du virus a diminué d'1,3% entre 2017 et 2022, passant de 14 à 12,7% de la population. Ainsi, en 2022, quelques 7,8 millions de Sud-Africains sur les 62 millions d'habitants étaient porteurs du virus contre 7,9 millions en 2017, date de la dernière enquête. Les raisons de la baisse sont complexes, d'après Gangela Nizuma, directeur de l'Institut et chercheur en chef de l'enquête.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Hamas et le Qatar font état d'une prolongation de 2 jours de la trêve dans la bande de Gaza, moyennant de nouvelles libérations d'otages aux mains du mouvement palestinien et de prisonniers détenus dans des prisons israéliennes. Israël n'a pas confirmé cette extension dans l'immédiat. Les détails avec Mohamed Oumfa.
Alors que la trêve en vigueur est sur le point d'expirer mardi à 5h UMT, l'État du Qatar annonce que dans le cadre de la médiation en cours, un accord a été conclu pour prolonger la trêve humanitaire de 2 jours dans la bande de Gaza, a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères. Le Hamas a confirmé dans un communiqué un accord avec les frères qataris et égyptiens pour une prolongation de la trêve humanitaire temporaire qui sera de 2 jours supplémentaires avec les mêmes conditions que la trêve précédente. Le Hamas prépare une nouvelle liste d'otages à libérer, a déclaré dans un communiqué Oussama Hamdan, cadre du mouvement islamiste palestinien. Au terme de l'accord, chaque jour depuis vendredi, le Hamas a relâché 13 otages israéliens, tous des femmes et des enfants, tandis qu'Israël libérait 39 prisonniers, également des femmes et des jeunes de moins de 19 ans. Les familles d'otages israéliens qui doivent être libérées ce lundi ont été informées, a indiqué le bureau du Premier ministre israélien. Ce groupe d'otages est le dernier d'une série de 4 groupes dont la libération est prévue par l'accord entre Israël et le Hamas.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a décollé aujourd'hui pour l'Europe où il devrait évoquer le soutien de son pays à l'Ukraine et pourrait croiser son homologue russe, Sergei Lavrov. Le secrétaire d'État américain est attendu dans un premier temps à Bruxelles pour la réunion des chefs de diplomatie des États membres de l'OTAN. Il doit ensuite se rendre mercredi à une réunion en Macédoine du Nord de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, d'après James O'Brien, principal diplomate américain pour l'Europe. Selon le diplomate, l'agenda d'Anthony Blinken est cependant susceptible de changer. Il n'a pas souhaité commenter non plus sur la possibilité d'une rencontre en Macédoine du Nord avec Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Rafale de vent violente et vagues géantes, des intempéries qualifiées de méga-tempêtes ont fait au moins 4 morts et privé d'électricité environ 2 millions de personnes en Russie, en Crimée annexée et dans d'autres régions occupées de l'Ukraine. Baptisées tempêtes du siècle et méga-tempêtes par les médias russes, les violentes intempéries sont en cours depuis hier. L'homme suspecté d'avoir blessé par balle trois étudiants d'origine palestinienne dans l'État américain du Vermont a été arrêté dans un contexte de hausse des actes qualifiés de racistes ici aux États-Unis depuis le début de la guerre au Proche-Orient. La police locale considère que les victimes ont pu être ciblées en raison de leur appartenance communautaire. Le suspect, identifié comme Jason Eaton, est âgé de 48 ans et soupçonné d'avoir ouvert le feu sur les trois jeunes hommes qui passaient les fêtes de Thanksgiving samedi dernier dans la ville de Burlington. En France, le premier procès dans l'affaire de la décapitation en 2020 de l'enseignant Samuel Paty par un jeune djihadiste s'est ouvert aujourd'hui. Six anciens collégiens comparaissent à huis clos devant le tribunal pour enfants. Un deuxième procès pour juger huit adultes aura lieu devant la cour d'assises de Paris à la fin de l'année prochaine. Et voilà pour le journal. Sans plus tarder, en condensé des nouvelles économiques, il est l'heure de la Minute Éco avec Alexandrine Rolognon.
La société nigérienne d'électricité Nigelec a mis en service une centrale photovoltaïque de 30 MW pour compenser d'importantes pénuries. Le Nigeria a arrêté de fournir de l'électricité au Niger en réaction au coup d'État de juillet. Équipée de plus de 55 000 panneaux solaires, cette centrale est la plus grande infrastructure énergétique solaire jamais réalisée au Niger, selon le ministre nigérien de l'énergie. Mozambique, le gouvernement approuve un plan de transition énergétique de 80 milliards de dollars. Selon l'agence Ecofin, ce plan prévoit l'ajout de 2 000 MW de capacité hydroélectrique d'ici 2030, l'extension du réseau national de distribution d'électricité et l'encouragement de l'adoption des véhicules électriques afin de réduire les émissions du secteur des transports. L'objectif du gouvernement est de réduire la forte dépendance du pays aux combustibles fossiles et d'accroître la disponibilité de l'électricité.
Et maintenant, un résumé de l'actualité sportive. Nous retrouvons Yacouba Ouidraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Fin hier des rencontres de la première journée des matchs interclubs de la CAF.
Oui, en Ligue des Champions, les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns ont démarré fort en dominant 3-0 les Mauritaniens du FC Ouagadougou. Ils partagent la première place du groupe A avec les Égyptiens de Pyramide FC qui ont fait le service minimum 1-0 devant les Congolais du tout-puissant Mazembe. Le groupe B est dominé par les Botswanais de Swaneng Galaxy, vainqueurs surprise des Marocains du Wydad à Casablanca 1-0. Tandis que la SEC d'Abidjan et Simba SC de la Zambie se sont neutralisés un but partout. Dans la poule C, l'Espérance de Tunis a remporté son match face à l'autre club tunisien, l'Étoile du Sahel 2-0 et le Petro de Luanda s'est imposé 1-0 devant les Soudanais d'Al-Hilal Omdurman. Dans la poule D, le tenant du titre Al Ahly du Caire n'a laissé aucune chance aux Ghanéens de Madiema, battu 3-0.
Début réussi également pour les deux clubs égyptiens en Coupe de la CAF.
Victoire étriquée 1-0 du Zamalek et du futur FC, respectivement face aux Libyens d'Abou Salem et aux Sud-Africains de Supersport. Les Tunisiens du club africain ont fait mieux 2-0 contre les Ghanéens de Dream FC, tout comme les Angolais de Sagrada devant les Guinéens de Koya. Victoire nette du stade malien de Bamako 3-0 sur la pelouse des Diables Noirs du Congo. Belle performance aussi des Nigériens de Rovers United qui ont dominé 3-0 les Angolais de Lobito. La Renaissance sportive de Berkane a aussi assuré 2-0 devant les Sud-Africains de Sekou Koumé. Même score en faveur du tenant du titre, l'USM Alger, qui recevait les Libyens d'Al Ahly Benghazi.
Balle au panier avec la Basketball Africa League, qui a désigné ses trois dernières équipes qualifiées pour la phase finale.
C'est à l'issue des qualifications élite 16 de la division Est qui ont eu lieu à Johannesburg en Afrique du Sud. On retrouve l'équipe locale des Cape Town Tigers, les Ougandais de City Oilers et les Burundais de Dynamo qui ont battu in extremis les Malgaches de COSPN 79-78. La phase finale aura lieu en mars 2024 dans trois conférences, Sahara, Nil et la Nouvelle-Kalahari, qui va accueillir le match d'ouverture en attendant la finale prévue à Kigali, au Rwanda, pour la quatrième année consécutive.
Ici en NBA, les Spurs ont été défaits à Denver.
Le prodige français Victor Wembanyama a réussi un match complet avec 22 points, 11 rebonds, 2 passes décisives, 4 contre et 6 interceptions en 24 minutes, mais il n'a pas pu empêcher la 12e défaite consécutive des San Antonio Spurs, battu 132 à 120 par Denver. De son côté, Milwaukee a réussi le retour le plus important de la saison en remontant un écart de 26 points pour dominer Portland 108 à 102. Le Magic d'Orlando a enchaîné un 7e succès devant les Charlotte Hornets 130-117. Les Phoenix Suns ont réussi à s'imposer à New York 116 à 113. Dans les autres matchs, les leaders ont assuré à l'Est, Boston a vaincu Atlanta 113 à 103 et à l'Ouest, Minnesota a défait Memphis 119-97.
Merci bien, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Au Mali, le contexte humanitaire s'est fortement dégradé à Ménaka avec l'afflux continu de personnes déplacées. La grande majorité de ces déplacés viennent de la localité d'Andérambukane. D'après des témoignages dans la région, les familles fuient à la fois les violences de l'État islamique au Sahel, qui contrôle la zone, et les bombardements de l'armée malienne. Pour en savoir davantage, Georges Ebion a joint dans la ville de Ménaka le journaliste Alousseini Agali, directeur de la radio à Adar.
La situation à Ménaka devient très 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 critique en ce moment, parce que toute la région de Ménaka est déplacée dans la ville de Ménaka suite aux événements, les affrontements dans la zone de Ménaka qui ont commencé depuis le mois de mars 2023. Donc cela a fait déplacer toutes les populations des autres cercles dans la ville de Ménaka. Tout récemment, avec les récents affrontements qui ont lié vers Andrambukane, les populations qui sont restées dans la ville de Ménaka ont commencé depuis la semaine passée à regagner la ville de Ménaka.
Alors, est-ce que des mesures ont été prises pour l'accueil de ces réfugiés qui, j'entends dire, ont tout perdu de là où ils viennent?
Bien sûr. Ces déplacés, elles ont tout perdu aujourd'hui parce que c'est des gens qui ne mènent pas les moyens de se faire déplacer. Et c'est ça qui a fait que beaucoup d'entre eux sont restés dans la ville d'Andrambukane dans le passé. Mais celle-là la situation les a obligés de quitter Andrambukane parce qu'avec le frappe de ces dernières semaines-là dans la zone où il y a eu des civils qui ont été tués et des blessés. Donc les gens, ils étaient obligés de quitter la ville d'Andrambukane malgré qu'ils n'ont pas les moyens. D'autres sont venus ici sans rien. Donc aujourd'hui, ces gens-là vivent à Ménaka avec des difficultés énormes.
Alors, ce qu'on savait, c'est qu'il y avait des combats à Kidal avec le ratissage pour chasser les derniers rebelles qui se trouvaient dans la région. Y a-t-il d'autres nouveaux combats ou c'est la ramification de ce qui se passe à Kidal?
En fait, la situation sécuritaire dans la région de Ménaka n'a pas de lien avec ce qui se passe à Kidal. Voilà, la situation dans la région de Ménaka est une situation des affrontements entre l'armée et les groupes terroristes qui sont dans la zone. C'est différent des derniers événements qui se déroulent dans la région de Kidal. Tout compte fait, on sait que cette situation peut impacter la population de Ménaka parce que la route de Kidal, beaucoup de commerçants qui quittent l'Algérie passent parfois par le Kidal, traversent le désert de Kidal pour venir à Ménaka. Donc cela peut impacter vraiment le ravitaillement de la ville de Ménaka.
On écoutait Alousseini Agali, directeur de la radio à Adar, à Ménaka.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
La République centrafricaine s'apprête à célébrer le 65e anniversaire de sa fête nationale le 1er décembre prochain. Des liesses populaires sont prévues à cette occasion, entre autres la traditionnelle course de pirogue, patronnée cette année en partie par la VOA en partenariat avec la mairie de la capitale. Émile Gros-Raymond Nakombo, le président de la délégation de la ville de Bangui, nous livre ses sentiments sur cet événement sportif et culturel. Il est au micro de nos envoyés spéciaux, Félix Passis Zembrou et Firmin Max Akoyaweda.
La course de la pirogue a été réinstaurée sous ma houlette pour agrémenter cette journée nationale qui est le 1er décembre. Nous l'avons fait parce que la population l'a demandé. Et à chaque fois que nous essayons d'ailleurs de l'organiser, nous avons votre appui de la radio Voix d'Amérique. Cela signifie que la VOA est avec nous. Cette fête de pirogue se déroule sous cette ardeur, sur tous ces mérites-là, pour honorer notre ville, comme on le fait souvent.
Et on voit que dans la ville de Bangui, beaucoup de maisons sont submergées du fait des inondations. Et cela ne va-t-il pas impacter la course de pirogue le 1er décembre prochain?
Nous prions Dieu, puisque nous tous nous sommes des croyants, nous prions Dieu que cela se passe comme nous avons l'habitude de le faire. Et je suis sûr que la course de pirogue va se passer normalement. L'inondation que nous connaissons aujourd'hui vient du changement climatique. La ville de Bangui a dressé son plan énergétique et a été la première ville subsaharienne, je dis bien subsaharienne, à dresser son plan énergétique qui est évalué à $1 milliard. Et ce plan comporte trois grands axes. L'atténuation au changement climatique, la lutte contre le changement climatique, contre les effets de serre et l'assainissement. Et tout ça, vous voyez, ce sont des pans qui sont financés à hauteur de quelques milliards, à hauteur de quelques millions de francs CFA. C'est vrai que nous avons l'inondation, mais nous faisons attention à cela. Cette inondation vient tout simplement du fait que le monde... l'homme est son propre prédateur. Et quand nous parlons du changement climatique et du plan énergétique, c'est pour habituer nos populations à lutter contre, bien sûr, ce changement climatique en reboisant. Nous parlons dans ce plan-là de l'agriculture périurbaine, de la foresterie périurbaine, urbaine, de la lutte contre les inondations. Parce que Bangui est dans une sorte de vallée. Et normalement, cette vallée ne veut pas connaître des constructions des habitations. Nous devons éviter de faire construire des bâtiments dans cette vallée. Les bâtiments devaient être plutôt au flanc de cette colline de Lubangui et toute la chaîne de collines qui borde Bangui. Mais malheureusement, ces habitations sont dans cette vallée et cela fait que cette vallée, elle est marécageuse. Vous voyez, quand on parle du lac Kwanga, c'est lac Kwanga, le lac de Kwanga. Cette zone ici-là, c'était de la marécage, c'était de l'eau. Et tout ça, Bangui, est inondable très facilement. Mais nous essayons de, avec l'appui du gouvernement, nous essayons d'être attentifs à cela et d'être alertes aussi.
Émile Gros-Raymond Nakombo, président de la délégation de la ville de Bangui.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Cameroun, le comité international de la Croix-Rouge a tenu un concours national de plaidoirie en droit humanitaire. L'événement a permis de renforcer les connaissances des étudiants dans cette filière. Sur la base d'un cas fictif, ces derniers se sont exercés à identifier les qualifications juridiques et les types de poursuites à engager contre les potentiels auteurs de crimes de guerre lors des conflits armés, comme celui qui sévit dans l'extrême nord du Cameroun et qui oppose l'armée à Boko Haram. De Yaoundé, le reportage de notre correspondant Emmanuel Julenta.
Des magistrats, des officiers de la justice militaire, des universitaires humanitaires, juristes et avocats ont constitué le jury de la 6e édition des plaidoiries du concours en droit international humanitaire. Face à ce panel, des étudiants de 4 universités d'État et des grandes écoles du Cameroun. Muriel Elisabeth Ngondjok, participante au concours et doctorante en droit pénal et sciences criminelles à l'Université de Yaoundé 2.
Ce que ça m'a permis de comprendre, c'est comment est-ce que fonctionne le droit international humanitaire et précisément en cas d'exaction ou de crime, il est possible de poursuivre les personnes qui violent les règles de droit.
Pour jauger les connaissances des étudiants, il leur a été soumis un cas fictif sur les dérives recensées lors des conflits armés, comme celui de l'extrême nord, où les forces étatiques affrontent Boko Haram. Docteur Jacques-Serge Nguefak, chargé de cours à l'Université de Yaoundé 2.
Le Cameroun fait un effort déjà sur le plan militaire. Il y a une riposte qui a été organisée. On a des juridictions nationales qui font des efforts d'arrêter de poursuivre les personnes qui sont impliquées dans le cadre de ces conflits, notamment dans les actes de terrorisme.
L'un des problèmes que soulèvent les conflits armés est relatif au statut juridique des groupes d'autodéfense. Professeur Atemengue Jean de Noël, spécialiste du droit humanitaire.
À la vérité, il ne s'agit pas ici, au plan strictement juridique, de légitime défense. Les groupes d'autodéfense se mettent en place, s'organisent pour pallier aux insuffisances de la protection qui, en principe, est garantie par l'État, ou alors pour accompagner l'État dans son action de protection des populations contre les attaques des groupes armés ici non étatiques.
Par ce concours, le Comité international de la Croix-Rouge contribue à la promotion du droit humanitaire au Cameroun. Andreas Noter, chef des opérations du CICR à Yaoundé.
Il y a encore beaucoup de travail dans la promotion du droit international humanitaire. On est convaincu qu'aujourd'hui, on fait un pas ensemble dans la bonne direction de cette promotion de le droit. Avec un cas fictif, on arrive effectivement de faire ça avec les jeunes étudiants ou même les membres qui sont déjà plus avancés, avec entourés des experts et des autres spécialistes, de leur donner cette plateforme et cette habitude de connaître mieux la loi pour convaincre les gens qu'à la fin, c'est la loi qui prime.
À l'issue de la compétition, c'est l'École nationale supérieure de magistrature qui est sortie vainqueur du concours. Pierre Bertrand Angoula, directeur général de l'ENAM.
Nous voulons donc remercier la Croix-Rouge d'avoir organisé cette activité-là et féliciter nos élèves magistrats. Il est donc important que les acteurs de demain soient assez outillés pour connaître, n'est-ce pas, les enjeux en ce qui concerne le droit international humanitaire.
Yaoundé, Emmanuel Joloutap, VOA Afrique.
La cinquième édition du festival Musika na Kipaji, où jeunes filles talentueuses en Swahili, s'est tenue hier à Goma, en République démocratique du Congo. L'événement, qui a réuni de nombreux artistes venus de différents pays, a pour but de mettre en valeur le savoir-faire des femmes dans plusieurs domaines. Cette année, le festival a été marqué par des messages en faveur de la paix, notamment dans la région orientale de la RD Congo. Sur place, le reportage de notre correspondant Zanem Netizaidi.
Les atrocités subies par les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo, du fait de la guerre qui sévit dans cette région, bouleversent d'autres femmes activistes et artistes. Celle-là, une jeune artiste déplacée par la guerre qui vit à Goma, se concentre depuis plusieurs mois sur une musique révolutionnaire dans le seul but de faire valoir les droits des femmes et de dire au monde que son pays a besoin de paix.
La paix a disparu dans mon pays. Une grande partie de la terre congolaise est occupée par des terroristes et donc les femmes sont touchées fort par cette situation.
Cette année, Sheila, comme d'autres jeunes artistes féminines, a participé au festival Musika na Kipaji, un festival 100% féminin qui vise à mettre en exergue les talents des femmes. Nous l'avons suivi tout au long du festival et avant de monter sur scène, elle était déterminée à transcender son handicap d'albinisme et à offrir un spectacle à la hauteur de son combat.
Je suis une femme albinose et dans mes chansons révolutionnaires que je vais prêter, ça va parler de la paix. Ça va parler de la situation de la femme qui continue à être aggravée à cause de la situation des guerres qui continuent à toucher mon territoire ou bien mon pays.
Le public est tombé sous le charme de cette jeune artiste qui a laissé une bonne partie de l'assistance sans voix, à l'instar d'Evariste Iragui, habitant de la ville de Goma.
Et elle a chanté sur un rythme, le reggae, qui n'est pas un rythme approprié à tout le monde, mais aussi le fond de son message, le message qui portait principalement sur la paix. Elle a transmis des messages de paix et nous, en tant que public, on a été émerveillés.
L'objectif du festival a été atteint, selon les organisateurs. Elisha Abumba, directeur du festival, explique qu'en plus de montrer les savoir-faire artistiques des femmes, le festival est un outil de plaidoyer pour faire valoir les droits des femmes.
Le Mouska n'a pas direct l'espace de plaidoyer. Ce sont des problèmes du pays, des problèmes de la société. Et nous croyons que le partage reste la solution à ça. Il faut révolter les gens, il faut montrer les problèmes pour que tout le monde puisse s'engager. C'est la lutte, au fait.
Les artistes féminines qui ont agrémenté cette 5e édition des Musique Anakipadji venaient d'horizons divers, notamment de plusieurs villes de la RDC, du Rwanda, du Zimbabwe et du Burundi. Zalim Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. L'actualité se poursuit sur nos ondes et sur voafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. Jacques Aristide, dans la capitale américaine. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Au revoir.